Bonjour, bon matin, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, Hélène Bédard au micro. Nous sommes déjà rendus à l'édition du vendredi 1er mars. Oui, le printemps s'en vient, on me l'a dit. Alors voilà, en la régie, j'ai mon fidèle Mathieu Tessier. Bon matin, Mathieu.
Bonjour, bonjour.
Et avec moi, ma fidèle collaboratrice, Francine Forget. Bon matin.
Bonjour. Réchauffée par les rayons du soleil, tadam! Je vous parle ce matin, encore, mais quand même, des femmes scientifiques.
Oui!
Des générateurs de textes. Faut-il s'en inquiéter? Mais je commence par la crypto-monnaie.
Oh, mon cauchemar! Je vais finir par y comprendre quelque chose. De mon côté, ben moi, je vais vous parler de l'hiver qui... Je parlais du printemps tout à l'heure, mais je vais quand même vous parler de l'hiver avec ses lèvres gercées, comment réussir à s'entraîner, comment aussi vivre avec bonheur notre hiver. Je vous reviens. Alors, sautons dans la crypto-monnaie, Francine.
Cette fois-ci, en plus, c'est un lien qui n'est pas d'emblée là, évident. Crypto-monnaie, chaîne de blocs et littérature.
Ouh là là!
Ouh là là, certainement. Alors, Carl Rétino-Paraselli, dans Le Devoir, du 19 février 2019, nous parle du projet de Walid Romani, qui, en fait, exaspéré par des emplois dans le monde littéraire québécois qui sont très, très précaires et la fragilité des modèles d'affaires traditionnels dans ce domaine-là, il a mis sur pied une nouvelle crypto-monnaie et la technologie de blocs, là, qui, de chaîne de blocs qui l'accompagne, pour lancer H, qui pourrait devenir la première revue francophone de crypto-littérature au monde. C'est pas rien, hein?
Crypto-littérature.
Oui! Alors, M. Romani, il se rappelait des discussions qu'il avait eues avec des collègues qui œuvrent dans l'univers de la littérature. Puis, bon, il entendait parler d'auteurs qui ont passé des années à travailler bénévolement pour mettre sur pied leur propre maison d'édition ou d'autres qui ont eu de la difficulté à joindre les deux bouts, même s'ils parviennent à vendre leurs écrits. Alors, il s'est dit, ben il y a peut-être quelque chose à faire pour les aider, pour faire de la promotion autrement. Mmh. Alors, il y a 2 ans, il s'est mis à tout lire sur les crypto-monnaies. Comme d'autres, là, comme vous, Hélène, comme sûrement des auditeurs, il a d'abord découvert le Bitcoin, la plus connue des monnaies virtuelles. Puis, par la suite, il a compris qu'il existe plusieurs autres crypto-monnaies dont l'objectif premier n'est pas nécessairement de réaliser un profit. Ce qu'il dit, M. Romani, « J'ai jamais été attiré par la spéculation ou les produits financiers, mais très attiré par les principes idéologiques de la crypto-monnaie. » Alors, au terme de ses recherches, Walid Romani a arrêté son choix sur la crypto-monnaie Steam et sur la chaîne de blocs du même nom, dont le but est de permettre aux éditeurs de monétiser leur contenu en ligne.
Tiens donc.
L'objectif du rédacteur en chef et de son équipe est de publier la revue H, là, comme la lettre H, là, en ligne, comme n'importe quelle publication numérique, mais de l'intégrer dans la chaîne de blocs Steam. C'est là qui est vraiment l'invention. Ce qui va permettre de stocker puis de transmettre des informations de manière décentralisée. La raison est simple, selon M. Romani. Sur cette chaîne de blocs différente de celle du Bitcoin, la création de contenu et les interactions, comme les votes, les commentaires, donc en plus de ça, ça sera interactif, sont récompensés en monnaie Steam. Alors, fallait y penser. Ah oui, quelle histoire, certainement. En bref, le mode de financement se résume donc ainsi. La revue fait appel au financement participatif pour constituer un fonds en argent canadien. Ensuite, l'argent est utilisé pour acheter une certaine quantité de crypto-monnaie Steam sur la chaîne de blocs du même nom. Après la publication de chaque édition de la revue H, les gains qui sont réalisés grâce à la production de contenu et aux interactions s'ajoutent au fonds de départ. Cette somme totale en crypto-monnaie Steam est ensuite reconvertie en dollars canadiens et distribuée aux auteurs qui ont participé.
Là, oui.
Okay. C'est intéressant, là. Le processus est clair. Les collaborateurs reçoivent 75 % de l'enveloppe et les 25 % qui restent, ils retournent dans le fonds pour financer les numéros suivants. Alors, c'est à suivre. En fait, Carl Rettino Pasarelli nous parle de ce projet qui n'est pas encore disponible, la revue H. Alors, on va suivre.
Ah oui, j'aimerais ça.
Oui, pour voir le moment où ça va être rendu vraiment public.
Oui,
c'était dans le Devoir du 19 février 2019.
Merci, Francine. Alors, je vais poursuivre avec un avis fait publié par la pharmacie Jean Coutu. Ça concerne et c'est fort intéressant parce que c'est l'hiver. Alors, on dit à l'aide et au secours, mes lèvres sont encore gercées. Alors, ça, c'est intéressant. Moi-même, je subis ça, puis tous les trucs sont bons. Bien, on n'en peut plus en faire des lèvres qui fendillent. Pour en finir une fois pour toutes avec toutes ces craquelures, il y a des petites routines SOS sécheresse que je vais vous parler. Alors, d'ailleurs, et d'abord, pourquoi a-t-on les lèvres gercées? Hein? La peau des lèvres, ça s'explique qu'elle est plus fine que celle du reste du visage et elle ne possède aucune glande, ni sudoripare, ni sébacée pour la protéger et maintenir son hydratation. Donc, elles sont plus vulnérables aux agressions extérieures, le vent, le froid, le soleil aussi, et ça sèche, je vous demande pardon, et ça sèche, donc plus rapidement que d'autres parties du corps. Avant toute chose, il est essentiel, évidemment, d'enlever toutes les petites peaux qui parsèment nos lèvres, qui sont retroussées. Mais attention, on ne les arrache pas, on ne se blesse pas, là. On les enlève avec un petit exfoliant spécialisé ou comestible qui saura décoller les cellules mortes, puis ça va en même temps hydrater vos lèvres. Alors, on fait ça en douceur. On hydrate avec la crème de la crème. Il n'y a rien de tel qu'un baume à lèvres de bonne qualité pour redonner souplesse, confort et santé à nos pauvres lèvres martyrisées. Il rétablira la barrière protectrice et hydratante des lèvres, en plus d'apaiser la sensation de brûlure qui est si désagréable. La fréquence d'utilisation ou d'application, on y va sans retenue. Ah, ça, vous en mettez comme vous voulez. Voici quelques composantes naturelles qui vont permettre de dorloter vos lèvres. Ça, si vous voyez un de ces produits, ça peut être intéressant de l'utiliser. Il y a même des produits qu'on a à la maison. Alors, l'huile de jojoba, l'aloe vera, l'huile de coco, le beurre de karité, la vitamine E, l'huile d'olive et la cire d'abeille. Alors, toutes ces choses sont à notre portée et on peut les utiliser donc sans modération. En plus de soigner nos lèvres, il est primordial de traiter le contour de notre bouche. Affligés par les mouvements fréquents et les mauvaises habitudes, surtout ceux qui fument, cette zone se ride plus facilement. Il faut savoir que le contour de la bouche se compare aisément à celle des yeux, tiens donc. Comme elle est plus mince, il faut en prendre soin en l'hydratant et en y donnant une bonne dose d'antioxydants, qui est un ingrédient actif. Et pas question de ruiner tout ce beau travail en utilisant un produit de maquillage qui va assécher tout le travail que nous venons de faire. Alors, prenez des baumes teintés. Je ne fais pas un commercial là, de produits, là. Je fais juste des suggestions. Alors, prenez un baume teinté de rouge ou un brillant avec des agents hydratants. C'est important qu'il y ait des agents hydratants ou des huiles incluses à l'intérieur. Ça va redonner la brillance et la souplesse à votre bouche. Décidément, j'ai de la misère avec mes S ce matin.
Donc, chemises de la duchesse Artudis sont-elles sèches?
Je vais vous laisser aller là-dessus. Alors, écoutez, suite à ces doux conseils, je vous dis simplement à nous les belles lèvres. C'était un texte de Pharmacie Jean Coutu, étonnamment, il s'est paru en février, la semaine dernière.
Tu vois derrière mes yeux, je me trouve dans les tiens. Sur nos peaux qui se craquent, brillent nos lendemains. Et même si tout se brise, que l'hiver se retient, on chasse les hantises, on fraye les matins. Je t'aimerai plus fort, toi qui les semi-creux. Tu inventes si bien, tu guéris tous mes bleus. Nos jambes seront croches, on se moquera de nous, mais on s'en va.
Elle s'appelle Maud Audet et la chanson était « Nos lèvres retournées ».
Merci Mathieu. Francine, je sens que vous allez nous entraîner vers un texte encore une fois fabuleux concernant des femmes scientifiques. C'est bien ça?
C'est bien ça. Vous êtes tout à fait dans le droit chemin. Alors ces femmes, je vous rappelle, sont présentées dans l'édition de Québec Science de mars 2019. Mais les entrevues qu'on peut y lire sont reproduites sur un balado qui a été produit, entre autres, par Québec Science et qui comprend d'autres portraits de femmes scientifiques. Alors, je vous parle de Nezan Saran. Elle est cofondatrice et PDG de CAN4CAS. Elle se décrit elle-même comme une moitié ivoirienne, moitié iranienne, arrivée au Canada il y a 14 ans. Ma mère m'a convaincue de faire des études en techno. J'ai toujours aimé lire. D'ailleurs, il y a deux livres qui ont complètement changé ma vie. Le premier est « La vie rêvée des maths » de David Berlinski et le second est « The Art of Learning » de Josh Witskin. Chez CAN4CAS, la compagnie de Mme Saran, vous utilisez l'intelligence artificielle pour fournir des recommandations au sujet de l'eau.
Mm-hmm.
Comment cela fonctionne-t-il? Alors, elle répond, Mme Saran, que tout a commencé dans une compétition qui était organisée par la Fondation de Gaspé-Beaubien en 2016. On a élaboré un modèle statistique d'apprentissage automatique qui utilise les données environnementales comme les précipitations, la température, le taux d'humidité, etc., pour fournir une estimation réaliste de la qualité de l'eau du Saint-Laurent. D'ordinaire, on obtient ces résultats grâce à de l'échantillonnage, dont l'analyse prend 24 heures. C'est très mauvais dans un processus décisionnel si l'eau se révèle contaminée 24 heures, on a le temps d'en prendre pas mal, hein? Avec notre modèle, nous donnons des résultats pratiquement en temps réel. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec la ville de Montréal. La cause des femmes en technologie vous tient à cœur, pourquoi? Et de répondre, parce qu'il n'y a que 20 % de femmes en technologie. Quand je suis arrivée à Polytechnique Montréal, on n'était que 5 ou 6 femmes dans une classe de 80 hommes. Peut-être que les jeunes filles ne songent pas à ce type de carrière parce qu'elles ne se voient pas représentées dans ces rôles dans les médias et les films. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Si je peux en inspirer une ou deux à faire de même, j'en serai très contente. Ce sera ma petite contribution. Quel est le sentiment d'être l'une des rares femmes dans un groupe d'hommes? À Poly, franchement, ça ne faisait pas de différence. Les gars ne nous ont jamais dit qu'on était moitié moins bonnes parce qu'on était des femmes. On a toujours été traités de manière égale dans les équipes. Est-il plus facile pour les hommes que pour les femmes d'être entrepreneurs? Certaines personnes ne seraient peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que les avantages et les inconvénients pour une femme s'équivalent, surtout en techno. Les femmes ont accès à beaucoup de ressources. Il y a tellement de bourses, de visibilité, d'associations. Les gouvernements fédéral et provincial sont en train de débloquer des sommes considérables pour aider les femmes dans le domaine. C'est le moment de se lancer. dit Madame Saran. Alors, jeune fille, relevez ce défi.
Oui.
C'est Québec Science qui nous en parlait dans le numéro de mars 2019.
Merci, Francine. Merci.
Continue dans la thématique de l'hiver. Comment rendre votre entraînement plus agréable? Parce que j'ai imaginé que tout le monde s'entraînait, évidemment. Alors, vous êtes plein de bonne volonté. Vous avez parfois l'impression que votre entraînement manque un peu de piquant. Ben, on va jaser de deux, trois choses. Choisissez donc un environnement où vous vous sentez bien. Le silence vous fait du bien? Ben, pratiquez vos exercices dans le silence. Attendez d'être seul à la maison ou isolez-vous du brouhaha familial. Débranchez le téléphone, fermez le téléviseur et bougez. Si la musique vous stimule, ben mettez-en donc. Prenez soin d'adapter vos choix musicaux à votre type d'activité. Vous levez des poids, choisissez un rythme entraînant. Vous faites des étirements, une musique un peu plus douce, un peu moins stimulante pour vous permettre de faire les mouvements convenablement. Créez-vous une liste de lecture composée de chansons. Alors à ce moment-là, vous allez avoir tout un répertoire. Et pourquoi pas vous entraîner en salle si le grand air vous attire? Janvier est froid et pluvieux. Et avril aussi. Habillez-vous en conséquence et vous pourrez marcher en tout confort. Procurez-vous le bon équipement et des vêtements adaptés. Ça s'impose pour aller jouer dehors. Et c'est pas inutile de bien s'habiller, de bien se procurer des bonnes chaussures, des bonnes bottes. Variez vos activités si la monotonie s'installe. Vous pouvez marcher, nager, faire du jogging si vous en êtes capable. Marchez rapidement avec votre chien si vous en avez un. Adonnez-vous à la Zumba. Ça peut être intéressant. L'important, en fait, c'est de bouger. Essayez des cours de groupe. Ça peut être intéressant aussi. Ça rompt la monotonie et ça socialise. Sortez des sentiers battus. Faites du kitesurfing. Aller marcher en montagne, faire du canot camping quand le printemps va revenir, faire de la randonnée en famille, soit en hiver, soit en vélo l'été. Profitez du moment, c'est aussi très bon tout ça pour la santé. Si l'entraînement ne coule pas de source pour vous, encouragez-vous en vous offrant des petites gâteries à l'occasion. Par exemple, vous êtes maintenant en mesure de parcourir 5 km sans difficulté. Alors, dites-vous que là, à cause de ça, vous allez procurer une meilleure chaussure de marche, un plus beau chandail avec un logo. Ça peut être le fun. Soyez heureux de vos progrès, si minimes soient-ils. Rappelez-vous que vous ne vous entraînez jamais pour les Jeux olympiques. Côtoyez des amis ou des collègues qui prennent le temps de s'entraîner comme vous. Certains fréquentent 5 à 7 soirs semaine, mais vous n'avez pas à les suivre, là. Trouvez-vous un compagnon d'entraînement et soyez-lui fidèle. Et choisissez, ou si vous aimez mieux les cours de groupe, bien évidemment, ça aussi, ça provoque des relations sociales fort intéressantes. Pensez plaisir, pensez pas performance. C'est difficile, là. Même moi, j'ai de la misère à faire ça, là. Concentrez-vous simplement sur les bénéfices que l'entraînement vous procure, c'est-à-dire augmentation d'énergie, ça va améliorer votre sommeil, ça va gérer votre stress, et c'est pas la moindre des choses, ça va diminuer les risques de maladies cardiaques. Ça réduit l'anxiété, parce que quand on fait quelque chose un petit peu intensément, on marche vite, on oublie des choses. La tête devient plus tranquille. Et ça permet aussi de maintenir notre poids, et ça, c'est pas rien. L'entraînement, ça devrait pas être une punition, bien au contraire. Voyez-le comme un moment où vous prenez soin de votre santé. Ça, c'est aussi important physique que mental. Et ça améliore évidemment votre qualité de vie. Rappelez-vous que l'important, c'est d'y aller à votre rythme et selon vos goûts. Et surtout, bouger. Ça, c'est c'est un texte qui est paru très, très récemment pour parler de l'hiver et pour parler de l'entraînement. Excusez-moi, je cherche c'est le volet Ma santé, une revue Internet. Merci. Don't
se cherchent une terre, ceux de la campagne un bungalow. Ma tante qui rêve d'être millionnaire se ruine en achetant de la loto. Dans la vie, ça prend un drapeau. À vous les cœurs, pour moi le bonheur c'est le sport, la seule affaire que j'aime à mort, avec une bière dans mon salon. Énergique et pratique le sport amateur. 100 000 à l'heure en gros bicycle. Tout le monde court après le bonheur. Dans la vie, ça prend un bon cœur. Le cœur.
Pourquoi le bonheur, c'est le sport. La seule affaire que j'aime à mort. Avec une bière.
Ben oui, c'était Clémence Desrochers et la chanson Sport.
Oui, merci. Oh, on l'a chanté en studio.
C'est vrai, c'était très tentant. J'avais vraiment envie qu'on ouvre les micros et qu'on chante à l'unisson. Et voilà.
Oh, mais c'est bien, par exemple, Mathieu, vous avez pensé aux auditeurs. Merci en leur nom.
Oui, oui, merci de ne pas les avoir écorchés les pauvres oreilles avec nos fausses voix. Et voilà. Francine, vous allez nous parler de quoi?
Bien rapidement, là, puisqu'on est dans la conclusion de la première partie de l'émission, je ne peux pas passer sous silence cette semaine le lancement de l'exposition consacrée à Thierry Mugler au Musée des beaux-arts de Montréal.
Oui!
Et c'est pourquoi je vous en parle, pas parce que Mme Kardashian était là, là mais parce qu'il y a un robot. En fait, l'esprit de la recherche, de la réflexion de M. Mugler porte beaucoup sur le gynoïde qu'on appelle, qui était le robot à l'apparence d'une femme, finalement. Hein. C'était la version féminine de l'androïde. Et M. Mugler, dans Couturissime, cette première exposition qui est consacrée à ce couturier français, présente différentes choses. Et ce qui est intéressant dans sa recherche, c'est qu'on ne parle pas seulement de mode, mais en fait de toutes sortes de sujets, puisqu'il expose des photos, des tenues, des accessoires, et qui travaille avec des matières un peu particulières quand on pense à ces choses-là, surtout si on se reporte au moment où il a commencé ses recherches, dans les débuts des années 90, on parle de matières comme le métal, le chrome et le plexiglas. Alors voilà, je voulais vous en parler parce qu'il y a un lien avec la technologie, la science-fiction et tout ça. Monsieur Mugler qui commence cette exposition au Musée des Beaux-Arts.
Bien, merci. Je vais aller la voir, l'exposition. Vous m'avez tenté beaucoup, là. De mon côté, bien, je continue avec l'hiver. Alors, je vous avais promis que je vous parlerais de l'hiver, je vous en parle. Voici un laboratoire de l'hiver. J'ai trouvé ce texte fort intéressant dans avenue.ca. C'est en train de devenir ma ressource chouchou. Alors, je l'ai eu comme faut, là. Alors, vivre avec bonheur l'hiver, bien, c'est possible. Voyons voir. Alors, vivre en ville, c'est mon cas. Il existe un laboratoire de l'hiver qui a pour mission d'aider les Québécois à se réapproprier la saison froide.
Ben un oui. Laboratoire d'hiver. De l'hiver.
Ben oui. Ben
ah
oui.
Bon?
Oui. Alors, ça réunit des acteurs sociaux, évidemment des organismes, des citoyens, milieux publics, privés, qui se partagent des idées. Alors, évidemment, le but de tout ça, c'est pour ne pas nous éteindre de novembre à avril. Okay? En gros, c'est le but avoué. Évidemment, avec 210 cm, Montréal est l'une des grandes villes du monde qui reçoit le plus de neige par année. Bon, ça, on se le dit, on le savait. Par contre, le guide nous propose notamment de réduire la slush. OK, vous savez, le mélange d'eau et de neige là, qui fait l'unanimité contre elle et qui est particulièrement désagréable lorsqu'elle s'accumule en grandes flaques au coin des rues.
Oui, et qui permet une industrie de la botte florissante à Montréal. Oui,
bien là, il y a un truc qui est demandé aux organismes. Surélever les passages pour piétons des intersections et aménager des saillies de trottoirs pour faire mettre un drainage central permettrait d'y remédier. Alors écoutez, je vais continuer avec d'autres belles idées de ce laboratoire d'hiver au retour de notre pause. Restez avec nous. Nous allons vous revenir immédiatement après ce court moment d'arrêt. Ah, voilà! Contente que vous ayez que vous soyez restés à notre écoute. Nous en sommes ravis. Francine va nous parler d'une femme médecin.
Qui pense autrement, je vous dirais. Okay, en tout cas, moi, je trouve. Okay. C'est une nouvelle chroniqueuse.
Moi, je dirais chroniqueure.
OK. Bon, alors donc, une femme qui fait une chronique qui s'appelle Alexandra Harbour. Qui fait la chronique Carnet de santé dans Québec Science, mars 2019. Le patient a toujours raison, c'est le titre de sa chronique. L'histoire se déroule il y a 5 ans environ. Elle est alors étudiante en médecine, en stage d'hématologie. Alors, Mme Harbour dit « J'entre dans la chambre d'un patient atteint d'une grave anémie auto-immune. Son système immunitaire attaque indûment ses globules rouges et lui cause ainsi une fatigue extrême et des douleurs thoraciques. Comme s'il faisait plusieurs fois par jour une petite crise cardiaque. Je m'approche de lui, un peu à reculons, et puis « À combien sont mes globules rouges? » me demande-t-il, tout sourire. « Je me sens comme si j'avais 80 d'hémoglobine. » C'est le patient qui dit ça. Ma réponse? Son taux est de 56 grammes par litre de sang, la normale étant au-delà de 140. Quelques heures plus tard, je reçois une note du laboratoire m'avisant qu'il y a eu erreur. Le taux d'hémoglobine de mon patient est bel et bien de 81 aujourd'hui.
Ah ben tiens donc.
Oui, il se sentait, hein, il écoutait son corps, comme on dit. Je retourne à sa chambre, triomphante, vous aviez raison. Je me rappelle avoir bien rigolé avec lui. Je repenserai souvent à ce patient pendant ma résidence effectuée pour devenir interniste en gériatrie, un médecin spécialiste des soins aux personnes de 65 ans et plus. Se pourrait-il que, pour paraphraser le monde de la vente au détail, le patient ait toujours raison? N'oubliez jamais de demander au patient ce qu'il pense avoir, nous répétaient ad nauseam nos professeurs. Je me souviens de m'être bêtement demandé comment un patient pouvait bien savoir plus que moi qui sacrifiait tant d'heures de sommeil au profit de l'étude. Le temps a passé, et même si je n'ai que 4 ans de résidence derrière la cravate, je me suis rapidement rendu compte que c'était de loin la question la plus importante. Je remarque que, trop souvent, certains médecins omettent de considérer le savoir expérientiel de leurs patients, se fiant uniquement à leurs connaissances scientifiques pour formuler un diagnostic.
Quelle belle initiative! Écoutez l'autre!
C'est intéressant, hein? Oui. Madame Harbour parle du docteur William Osler, qui est un pionnier de la pédagogie médicale, qui enseignait déjà au début du 20e siècle et qui disait à ses étudiants « Écoutez votre patient, c'est lui qui va vous donner le diagnostic. » Avec la crise de confiance qui touche la profession médicale, peut-être que l'heure est venue de se remettre en mémoire les conseils du bon docteur Hostler, au lieu de ne jurer que par les essais randomisés contrôlés. C'est ainsi que je souhaite amorcer ma relation médecin-lecteur avec vous. Je me propose d'être vos yeux et vos oreilles à l'hôpital. En échange, la prochaine fois que vous serez dans le cabinet du médecin, pensez à cette chronique et partagez votre opinion. Après tout, c'est aussi pour le bien de votre docteur. Alors, à lire dans les prochains numéros, mais cette fois-ci, on part de l'édition de Québec Science Mars 2019, Alexandra Harbour, carnet de santé.
Ah, c'est rafraîchissant. Eh bien, tant qu'à parler de belles nouvelles comme celle-là, moi, je vais vous demander, est-ce que vous souffrez d'insomnie? Est-ce que vous avez des douleurs liées au fait que vous manquez de sommeil? C'est un texte de Vieillir en santé que j'ai trouvé ça, imaginez, en Protégez-vous. Un autre trouvaille en février 2019. On dit que la qualité du sommeil a tendance à diminuer en vieillissant, même pour les gens en bonne santé. Alors, si vous avez du mal à dormir ou à vous rendormir après vous être réveillé en pleine nuit, il semblerait que c'est possible d'améliorer la situation. Alors, vous mettez plusieurs minutes, voire plusieurs heures à vous endormir, vous vous réveillez souvent la nuit ou vous êtes debout avant même que votre réveil démarre. Vous êtes fatigué, faites des siestes dans votre fauteuil pendant la journée. Vous pouvez vous sentir irritable, dépressif. Vous n'arrivez pas à terminer la lecture de votre livre. Vous oubliez tout, vous êtes peut-être un peu dangereux au volant, parce que vous êtes distrait. Tout cela ressemble au signe de l'insomnie. L'insomnie, inquiétez-vous pas, c'est pas une maladie. C'est un symptôme d'un problème sous-jacent. C'est l'indice d'un mauvais état de santé ou d'une qualité de vie perturbée. Alors, il faut chercher la cause. Observez bien quand vos nuits sont de piètre qualité. Notez vos habitudes de vie et tentez de faire des liens. Ça, c'est ingénieux. On dit ici, et c'est suggéré, que vous devriez quand même dormir de 6 à 8 heures chaque nuit. Bon, c'est discutable, il y a bien des gens qui dorment moins que ça, mais c'est suggéré. Si malgré ça, votre insomnie dure plus d'un mois, il faut véritablement en parler à votre professionnel de la santé. Ça, je pense, c'est une mesure de base. Ici, on dit, comment bien dormir la nuit? Bon, utilisez votre lit uniquement pour dormir ou pour l'intimité. Pas de télé dans votre chambre, pas d'appareil électronique. Je pense que c'est une bonne
idée. Oui, mais qui suit cette recommandation maintenant?
Peu de gens.
Un petit texte sur sa tablette avant de se coucher.
Oui, je vois une main levée là-bas. Là.
Mathieu dit oui.
Essayez de tenter ça c'est le fun. Essayez de tenter de créer un environnement calme. Des tentures ou des rideaux qui ne laissent pas pénétrer la lumière, température un peu plus fraîche ou une bonne aération. Ça, c'est de bon ton. Gardez un éclairage discret dans le corridor, la salle de bain, afin d'assurer votre sécurité lors de vos déplacements nocturnes. Évitez de tomber ou de vous cogner les orteils. Mais, la nuit, ça se peut aussi que l'insomnie soit reliée à des douleurs. C'est pour ça que j'en ai parlé au début. Vos épaules sont douloureuses. Votre dos vous fait souffrir. Et dans la journée, l'épicerie du coin semble toujours de plus en plus éloignée. Dénichez-vous un bon oreiller pour calmer vos douleurs au cou. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que malheureusement, vous n'êtes pas seul. La douleur est un problème très, très fréquent chez les aînés. Environ 50 % des personnes âgées souffrent de douleurs chroniques, c'est-à-dire d'une douleur qui dure plus de 3 mois. Alors, on établit donc la chronicité à plus de 3 mois de ressentir une douleur. Ça, c'est nouveau pour moi.
C'est quand même long, non? Oui. 3 mois, là, si on a vraiment une douleur...
Oui, je trouve ça intéressant. C'est comme normé, là. Alors, des fois, on dit oh, « j'ai mal beaucoup », mais quand on questionne les gens, c'est justement quand on va parler avec votre médecin là, que vous avez si chaleureusement...
accueilli!
Oui, c'est ça. On va lui dire « ça fait 2 semaines que je l'ai. Essayez. » Je pense que la meilleure idée, c'est d'inscrire les choses. Comme ça, on est sûr de ne pas les oublier. En tout cas, je parle pour moi. Et évidemment, ces douleurs-là, il faut que ce soit assez sévère pour nuire à vos activités de la vie quotidienne. Ça provoque des troubles du sommeil. Ça peut provoquer aussi des pertes d'appétit et même des pertes de poids quand c'est long, quand c'est pas réglé. Alors, même si ces douleurs-là, c'est fréquent chez les aînés, j'ai envie de vous dire ceci, il n'est pas normal d'avoir mal, OK? Il n'est pas du tout normal. et des efforts devraient être faits pour contrôler la douleur le mieux possible, puis ainsi améliorer votre qualité de vie. Ne vous laissez plus dire « c'est normal à votre âge d'avoir mal ». Il y a une phrase qui dit « t'as mal où, là? » Mais c'est pas normal d'avoir ça. Alors, discutez-en avec votre professionnel de la santé, que ce soit votre pharmacien, votre médecin, votre infirmière, mais traitez ces bobos à la source et vous aurez une meilleure qualité et de sommeil et de vie. Donc, je vous rappelle que j'ai pris ce texte qui est « Vieillir en santé » dans la revue « Protégez-vous » du 7 février 2019.
Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán con.
Souvenir de 1976, c'était Jeannette Porquetevas et c'était une demande spéciale de notre chère Catherine.
Ah, merci. Merci bien. Francine, vous allez nous parler des générateurs de textes.
C'est cela. Bien, il y en a déjà, puis il faut vivre avec, comme oui. On dit. Faut-il s'inquiéter des générateurs automatiques de textes? Cette question-là, elle est posée par François Larreau, qui est professeur agrégé au département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal. Il est d'ailleurs spécialisé en génération automatique de textes. Alors, il y a même des spécialistes. Alors, vous voyez, hein, quand même, là, on est rendu loin. Son opinion est parue dans la section débat de la Presse Plus, 24 février 2019. Il y a quelques semaines, dans la Presse Plus, comme dans beaucoup de journaux partout dans le monde, on a rapporté que GPT-2, qui est un système capable de générer automatiquement de faux articles, il est tellement performant que l'entreprise qu'il a créée, OpenAI, a décidé de ne pas le rendre public. Ah bon? Ben non, ils ont peur qu'ils soient pas utilisés, qu'ils soient utilisés à des fins malicieuses. Alors évidemment, les médias se sont emballés face à cette menace terrifiante. GPT-2 n'est pas un générateur automatique de texte, dit M. Larrault, mais ce qu'on appelle un modèle de langue, un modèle mathématique qui assigne une probabilité à une séquence de mots. Ces modèles-là, ils n'ont rien de révolutionnaire. On en a un dans notre poche depuis des années. C'est ce qui permet à notre téléphone de deviner le mot qu'on essaie de taper sur notre clavier virtuel.
Exact. Hein? Exact.
C'est cela. Alors, le premier modèle de langue date de plus de 100 ans. 100 ans. Et est attribué au mathématicien André Markov. C'est, ça n'a rien à voir là, avec l'autre, là. Même si ce n'est que dans les années 90 que ces modèles-là se sont vraiment développés. Un modèle de langue peut être utilisé pour générer du texte. On n'a qu'à lui fournir le début du texte, que le système complète, un mot à la fois, en choisissant toujours un des mots les plus probables pour continuer la séquence. Alors, c'est là que c'est dangereux. C'est ce que fait GPT-2. Il y a un X pendant. On ne contrôle pas ce qui sort, hein? C'est ça. On sait ce qui commence, mais on ne sait pas ce qui finit, comme on dit. Les prévisions météo sur notre téléphone, les descriptions d'hôtels sur les sites de réservation, une bonne partie des nouvelles financières, les annonces dans les aéroports, notre horoscope, hein, qu'on lit ou hein, religieusement à tous les jours, et d'autres types de textes que vous lisez ou que vous entendez tous les jours sont générés par une machine. Est-ce dangereux? Hein, pour reprendre la question de départ, en conclusion, le professeur Larrault dit « Faut pas avoir peur de GPT-2, des modèles de langue en général ou des générateurs de texte. Ce dont il faut avoir peur, c'est l'ignorance et le manque de sens critique. Et le remède à ces mots n'est pas moins de technologie, mais plus d'éducation. »
Voilà.
Et que c'est intéressant comme conclusion. Faut-il s'inquiéter des générateurs automatiques de texte dans la section débat de la Presse Plus du 24 février 2019?
Vous avez tout dit. Est-ce que, je vais vous poser une question. Est-ce que vous espérez travailler encore longtemps, 65 ans?
Ben oui.
Ben oui, hein?
Ben oui, certainement, voilà. Certainement.
Good, good.
Oui, la retraite, c'est à 80, c'est ça?
Oui, je pense que oui.
Ouais. Oui, 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 oui. Autour de.
Avec
autour
vous.
De.
À l'âge où plusieurs, enfin, en parlent, puis prennent leur retraite quand c'est pas déjà fait, Colette Lejour espère pouvoir travailler encore très, très longtemps. Je vais vous raconter l'histoire d'une carrière coup de cœur, qui a été amorcé à 50 ans et qui dure encore. Et depuis. Donc, c'est une madame, Colette Lejour, c'est une madame qui a fait son secondaire 5. Ensuite, elle a fait plein de choses. Au cégep, elle a étudié en sciences, en éducation physique, en technique de loisirs, et comme criminaliste, en psycho, en droit. Bref, elle essayait toutes les matières jusqu'au jour où on lui a fait comprendre qu'il... Ça coûtait beaucoup de sous pour elle de continuer ses études ainsi et elle ne pourrait pas faire ça très longtemps, donc il fallait qu'elle fasse un choix. Elle a fait un choix.
Quand vous dites « on lui a fait comprendre »
Sa famille.
Sa famille.
Oui, bon. Les souteneurs, en fait, ses parents.
Ah, voilà.
Alors, elle a suivi donc le conseil de ses parents puis elle est devenue sténodactylo. Voilà. Alors, elle a travaillé quelques années dans des bureaux, mais tout à coup, elle est partie voyager en Europe pendant 7 mois. Là, le goût des voyages a commencé à s'installer dans sa tête. Ensuite, elle est revenue, elle a ouvert une garderie familiale qu'elle a fermée 12 ans plus tard. Il y a des parcours hein, intéressants. À 47 ans, elle est partie à Cuba, donc son goût de voyage lui a repris, puis elle est tombée en amour avec le pays. Elle s'y est fait des amis. Et c'est là que sa nouvelle carrière s'est amorcée. L'idée de travailler dans l'industrie du voyage lui plaisait, mais elle s'est dit... Je suis probablement trop vieille. Elle avait 50 ans à ce moment-là. Elle a donc envoyé son CV courageusement à une compagnie qui organise des voyages. Puis elle était engagée en tant que représentante à destination. Donc, ça fait maintenant 15 ans qu'elle est agente à destination.
pour cette compagnie de voyage et pour cette compagnie d'aviation aussi. C'est elle qui accueille les voyageurs à l'aéroport. Elle les dirige vers les bons autobus, les bons trajets. Elle a la tâche de tenir des séances d'information à l'arrivée à l'hôtel et de répondre aux demandes et aux plaintes des clients. C'est elle aussi qui s'occupe de réserver les activités. Je pense qu'en voyage, je sais, on a tous vu quelqu'un comme ça qui s'occupait de nous, mais souvent, c'est des deuxièmes ou troisièmes ou quatrièmes carrières. C'est des gens qui ont osé faire autre chose. Alors, elle, le contact avec les clients, elle aime ça. Elle dit que le fait que je pourrais peut-être faire la différence pour la réussite d'un séjour, bien, sa journée est faite. Là, on lui demande, est-ce qu'elle travaille toute l'année? Elle dit que c'est un emploi contractuel. Elle part 6 mois par année au début, puis maintenant, c'est réduit à 3 mois par année. Bon, elle travaille 6 jours sur 7, puis elle est logée à l'hôtel où elle travaille. Étant contractuel, évidemment, le mot le dit, son contrat est renouvelé d'un moment à l'autre. Ce n'est pas un travail qui est acquis, donc. Quand elle a commencé, elle pensait de faire ça 4 ou 5 ans, bien, oups, ça fait déjà 15 ans qu'elle fait ce boulot. S'il arrivait que son contrat ne soit pas renouvelé, est-ce qu'elle va songer à prendre sa retraite? La réponse de Colette. J'ai 65 ans. J'ai, quoi qu'il y a toujours la possibilité d'accompagner des groupes à l'étranger pour quelques semaines. C'est pas payé, mais ça permet de voyager gratuitement. Alors, imaginez, elle a déjà un autre projet en tête si jamais ses contrats ne sont pas renouvelés. Je trouve ça agréable et rafraîchissant d'entendre des gens qui veulent continuer de faire des choses. Après tout, on n'est pas obligé de prendre sa retraite. Je suis d'accord avec elle. Et quand on a un métier qu'on aime et qu'on a les bonnes conditions pour le faire, pourquoi s'arrêter si on n'en a pas envie? Alors voilà, c'était juste un clin d'œil, une autre personne qui a décidé qu'à 65 ans, elle continue de travailler, qu'elle aime ça et elle est heureuse là-dedans. Et j'ai pris ce texte dans avenue.ca, un texte de Julie Chaumont qui est paru en janvier 2019.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Après le travail, faut être fou. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
Allez, encore une fois, bande de feignants là.
Les prisonniers du boulot
Henri Salvador, le travail, c'est la santé, mes chers.
Je le crois aussi. Francine, allez-vous nous parler de Facebook, là?
Oh, un petit peu. OK. Être ou ne pas être sur Facebook, c'est la question que Marc Cassivi posait dans sa chronique du 24 février, en fait, de dimanche dernier. En fait, cette question-là, c'est d'abord Brian Pinvidic, excusez, qui cela posait. Et il y a 4 ans, en fait, il a commencé à faire la recension, je dirais, des travers de Facebook. Il a créé un faux compte. Il est devenu ami avec des mineurs qui s'exposaient un peu trop, hein, photos déplacées, des choses comme ça. Il a aussi observé des couples qui découvraient des infidélités d'un des membres du couple. Des uns des autres qui se sont brouillés pour toutes sortes de raisons. On découvre que quelqu'un qu'on aime publie des propos racistes. Et même d'un cambrioleur qui surveillait les photos de voyage des gens fortunés. Alors, comme ça, il pouvait bien planifier ses vols à domicile.
Bon, c'est bien trop.
Bon, évidemment, M. Pinvidic a trouvé des avantages à Facebook. Ça permet de partager des grands moments de nos vies, de rester en contact avec nos proches. Mais en fait, il dit que ça tourne beaucoup autour de 2 sentiments humains puissants, hein, le narcissisme et puis le manque de confiance en soi, notre présence sur Facebook. Le plus ironique dans toute cette expérience, Brent Pinvidic, qui n'était toujours pas sur Facebook à la fin du tournage d'un documentaire qui a porté sur son expérience, « Why I'm not on Facebook », compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Et Marc Cassivi conclut sa chronique, je vous rappelle qu'il a été publié dans la Presse Plus le 24 février, en disant « Pourquoi moi je continue à y être ?» Ben, c'est parce qu'autrement, je ne me souviendrai pas de la date d'anniversaire de la plupart de mes amis. Voilà.
Et être ou ne pas être sur Facebook, effectivement, c'est une réflexion. Je me fais cette réflexion constante. Des fois, ça m'inquiète, des fois, ça me rassure, des fois, ça me réjouit, mais enfin.
Et vous y êtes toujours?
Ben oui.
Voilà, c'est ben ça.
Avec beaucoup de retard. Quand je prends les nouvelles, ça fait déjà 2 semaines que les gens les ont mises. Je suis comme un peu déphasé. Que je fais rire de moi. Écoutez, je veux juste vous rappeler le laboratoire de l'hiver que j'ai débuté tout à l'heure de la pépinière, enfin le Vivre en ville qui avait lancé la maison de développement, c'est-à-dire le laboratoire de l'hiver. Il y avait d'autres belles suggestions, comme par exemple, il avait suggéré de limiter les vents mordants en plantant des conifères. Ben oui, même des sapins de Noël récupérés pourraient être intégrés dans le paysage. Ça pourrait être intéressant aux endroits où on a des vents qui sont difficiles, comme par exemple assurer le confort aux arrêts d'autobus, comme sur le boulevard René Lévesque. Hein? Encourager les jeux. Pourquoi pas faire des espaces de glissade pour 3 fois rien? Mettre des bancs près des glissoires, dans un parc, face au soleil en fin d'après-midi, ça pourrait être agréable. Utiliser des équipements à longueur d'année, ou des placotoirs, ou des terrasses 4 saisons. Déneiger moins, mais mieux. OK, on s'entend là-dessus. Je sais que tout le monde en parle, mais ça pourrait être un objectif. Et évidemment, ce guide n'est que sa première version. Dans un pays où l'hiver dure presque 6 mois, on a tout intérêt à mieux vivre notre nordicité. Alors voilà, c'était des suggestions pour mieux vivre l'hiver et être heureux avec notre neige, notre glace, nos froids. C'était donc dans avenue.ca. C'était un texte de Émilie Laperrière, paru en janvier 2019. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été à notre écoute. Merci de votre bonne patience. Merci de votre intérêt à revenir. Merci, Francine.
Merci, Hélène, à vous. Merci à nos auditeurs. Alors, je cours voir ce laboratoire de l'hiver.
Ah oui, il y a des bonnes suggestions. Merci, Mathieu. Merci.
Plaisir.
Et nous vous donnons rendez-vous, évidemment, vendredi prochain. Et nous avons bien hâte de vous y retrouver. Au revoir. Bonne semaine.